Invité de la deuxième heure de ces matins du samedi, le député de Charente, La République En Marche, Thomas Meynier, bonjour.
Bonjour.
Député et médecin urgentiste jusqu'en 2017 au centre hospitalier d'Angoulême, je ne me trompe pas.
Tout à fait, urgences et au SAMU.
Vous avez remis mardi un rapport sur la refonte des urgences à la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, rapport intitulé « Assurer le premier accès aux soins, organiser les soins non programmés dans les territoires », un rapport qui a été commandé à l'automne, 4 mois de travail, hein. On peut dire que c'est donc indépendant des quelques affaires dramatiques qui ont surgi ces dernières semaines, je pense notamment à la mort de Naomi Musanga, cette jeune femme décédée pour ne pas avoir été prise au sérieux par le SAMU, et puis encore plus récemment au décès de deux femmes âgées dans le couloir d'attente des urgences du CHU de Tours. En effet, le service d'ailleurs des urgences de ce même CHU de Tours est en grève depuis jeudi. Et puis votre ministre et notre ministre à tous disait sur France Inter il y a quelques jours qu'il y avait d'autres affaires qui remontaient, qu'on n'était pas au courant de tout, ce qui peut faire froid dans le dos. Autant dire que votre rapport sur les urgences tombe à point nommé. Est-ce que Thomas Meynier, vous diriez que ces drames sont représentatifs d'un système en bout de course qui est arrivé à bout de souffle ?
Malheureusement, l'affaire Naomi a, je crois, choqué l'ensemble du pays.
À raison.
Malheureusement, il arrive que des situations dramatiques surviennent. Je voudrais quand même rappeler que le SAMU, c'est 25 millions d'appels par an, c'est presque un par chaque seconde en France, et que dans l'immense majorité des cas, les professionnels sont remarquablement au rendez-vous et sauvent des vies au quotidien.
Ça, c'est pour répondre au climat de suspicion, aux violences, hein, très, très forte violence sur les réseaux sociaux contre les personnels après l'affaire Naomi.
Sur les réseaux sociaux,
culture de suspicion qui s'instaure.
Au téléphone où les professionnels du SAMU doivent faire face depuis quelques jours maintenant à des appels extrêmement agressifs, d'insultes, très, très, très durs. Et je veux rappeler tout mon soutien à mes anciens collègues, parce que vraiment, ils font un travail admirable et ce sont nos héros du quotidien.
Mais malgré tout, comprenez-vous que de l'autre côté, les gens aient peur, que effectivement, on se dise, on doit avoir confiance dans les services d'urgence de notre société, on parle de notre système de santé comme l'un des meilleurs du monde, et tout d'un coup, on entend que quelqu'un peut mourir parce que son appel n'a pas été pris au sérieux, ou qu'on attend dans un couloir parce qu'il y a trop d'heures d'attente, ou dysfonctionnement.
Bien sûr, vous le dites très bien, notre système de santé est reconnu à travers le monde comme étant l'un des meilleurs. Mais c'est aussi un système de santé qui vit beaucoup sur ses acquis. Il a été créé à l'après-guerre, dans les années 50, à une époque où on était moins nombreux. On vivait jusqu'à 75 ans. Les problèmes de santé étaient essentiellement les infections. Je rappelle souvent le cas de la tuberculose que nos grands-parents ont tous connu, alors que c'est devenu une rareté et finalement on n'en voit pratiquement plus et c'est très bien. Alors qu'aujourd'hui, on est plus nombreux, on vit jusqu'à 90 ans avec des problèmes de santé complexes, le diabète, l'hypertension.
Un retour de la tuberculose, un retour de la rougeole.
Un retour de la rougeole et on a agi à ce sujet avec la vaccination. Les cancers, les troubles cognitifs, les problèmes de démence. Et tout ça fait que la population âgée consomme, a besoin de plus de soins. Et ça prend et des soins qui prennent plus de temps.
Donc plus de personnel, plus de médecins.
Alors,
c'est ça la réponse,
à côté de ça encore, on a une population plus jeune qui, avec les moyens internet d'aujourd'hui, ont accès à plus d'informations, souvent par bribes. Et qui, au premier symptôme, s'inquiètent de façon très vive, à tort ou à raison, souvent à tort, malheureusement, et consomme plus de soins.
Consomme, oui. Consomme plus de soins, ça veut dire les médicaments ou ça, consommer, pour vous, ça veut dire aussi aller voir un médecin.
Aller voir un professionnel de santé et notamment un médecin. Et enfin, et on ne peut pas les en blâmer, il y a une jeune génération de médecins qui aspire à un rythme de vie plus serein que celui des prédécesseurs. Ce que j'appelle, moi, la médecine à papa a vécu ses heures de gloire et a rendu un fier service. Ces médecins qui étaient disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on pouvait m'appeler même à 3 heures du matin.
Au service de leurs patients.
Et qui venaient en pleine nuit, en ville comme à la campagne, chez leurs patients. Ça, on peut le regretter, je conçois, mais ce n'est plus le cas. Je crois que c'est aussi assez positif pour la qualité de vie des médecins sur la durée. Et tout ceci constitue finalement l'écart croissant entre une demande de soins qui augmente et une offre de soins qui diminue.
J'y reviens, Thomas Ménier. S'il y a plus de monde, plus de besoins ou de demandes de soins, et qu'en même temps, les jeunes médecins veulent travailler moins, vous appelez ça travailler plus sereinement, ce qui est tout à fait possible, hein, mais donc il faut plus de médecins.
Alors, on hérite là d'une situation de décennies de non-décision politique. Aujourd'hui, la situation est difficile. Je pense que tout le monde le vit au quotidien. La santé, ça nous touche toutes et tous. Et on se dit que...
C'est pour ça que les réactions sont sans doute si violentes.
On est peut-être le prochain qui en aura besoin dans la journée, demain ou dans quelques jours. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils attendaient que dans mon rapport, je propose plus de médecins, encore plus de médecins, toujours plus de médecins. Désolé, mais... Si j'avais, fait ça,
non,
si j'avais fait ça, finalement, j'aurais été dans toutes les propositions qui ont pu être faites depuis des années et qui n'apportent pas de réponse à court terme. Et des réponses à court terme, on en a besoin. Parce que d'aujourd'hui jusqu'à 2025, tous les ans, vont partir à la retraite plus de médecins que de jeunes ne vont sortir des facultés. Donc jusqu'à 2025, chaque année, il y a moins de médecins sur le territoire. En 2025, la situation change. Et ça remonte progressivement, mais en 2030, on reviendra tout juste au niveau d'aujourd'hui.
Donc il faut commencer tout de suite, donc, Thomas Ménier.
On a des réflexions, on travaille sur le numerus clausus notamment, et ça a été discuté il y a quelques semaines, ça va revenir sans aucun doute dans les prochains jours. Mais pour autant, si tant est qu'on ait les capacités d'en former plus, ces nouveaux médecins arriveraient dans 10 ans. Et nous, on en a besoin maintenant, et d'ici 2025 de plus en plus. Donc il faut complètement revoir le système de santé tel qu'on le connaît. C'est pour ça que, notamment, je propose de décloisonner le système de santé et d'aller voir vers les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, qui sont de vrais professionnels de santé, qui ont de vraies compétences.
Mais qui ne sont pas médecins.
Qui ne sont pas médecins. Mais qui ont des vraies compétences et qui peuvent, dans bien des cas, aider, participer à la prise en charge des patients.
Mais si ma fille a une crise d'asthme et qu'elle est en train d'étouffer, j'appelle pas un pharmacien, Thomas Ménier, j'appelle un urgentiste.
Je vous parle pas de la crise d'asthme. Évidemment, vous appellerez le 15 et vous aurez un urgentiste et on s'occupera de votre fille.
Je l'espère.
Mais bien sûr. Pour autant, dans un certain nombre de mots du quotidien sur lesquels l'on consomme énormément de soins, sur certaines consultations qui nécessitent pas l'expertise de 10 ans de médecine, probablement que les autres professionnels qui ont des compétences qu'il faut reconnaître, j'insiste là-dessus, peuvent rendre un fier service. Vous savez, moi j'ai un copain, médecin en Charente, qui me disait il y a quelque temps qu'il avait une patientèle de 800 patients dont il s'occupait et il était absolument au max, il pouvait pas faire plus tout seul. Et puis finalement, il s'est mis à travailler avec des infirmières autour de lui pour... s'organiser, faire en sorte qu'elle fasse un peu plus d'actes de prévention, qu'elle revoie les patients à sa place sur un certain nombre de suivis de diabète, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, il travaille autant qu'avant, mais au lieu de s'occuper de seulement 800 patients, il s'occupe de 1500 patients. C'est bien là qu'on voit qu'il y a des marges.
Oui, mais vous me permettez, Thomas Ménier, une remarque en vous écoutant parler de ce témoignage de votre copain, comme vous dites, une remarque qui est une forme de question. Vous parlez de la saturation, du besoin de désengorger les urgences, la saturation des urgences, de la saturation aussi des médecins qui ont beaucoup de travail. Les infirmiers, les infirmières se disent très souvent débordés, fatigués. Et là, vous dites à la fois qu'il faudrait qu'on ait un peu plus, on leur donne un petit peu plus de travail. Et dans vos propositions, 19 propositions, 19 préconisations dans votre rapport, vous souhaitez impliquer plus les généralistes, hein, les infirmiers, les pharmaciens, dites-vous, les kinés, mais aussi les généralistes, alors même que certains médecins, un, disent que ces soins non programmés, ils en font déjà tous les jours, et puis d'autres disent que c'est très difficile d'en rajouter, quand en plus, on manque de médecins, donc quand en plus de l'autre côté, c'est-à-dire nous, patients, nous avons le plus grand mal à trouver un rendez-vous dans la journée, dans l'heure, parfois. Donc je ne comprends pas comment vous pouvez répondre à une saturation par une autre saturation.
Alors, d'abord, l'important, c'est de rappeler que, effectivement, les soins non programmés, c'est une notion qui peut être un peu techno, mais les soins non programmés, c'est-à-dire les soins du quotidien, les soins aigus dont on a quand on en a besoin. C'est l'essence même de la médecine générale. et ça ne fait aucun doute et je ne remettrai jamais ça en cause, au contraire, ça doit rester l'apanage des médecins généralistes et ce sont eux qui en font le plus, c'est sûr. Les derniers chiffres qu'on a, preuve d'ailleurs que c'est assez peu suivi, les derniers chiffres qu'on a datent de 2004, ils faisaient 35 millions de consultations par an. Aux urgences, l'année dernière, 21 millions de consultations aux urgences, dont on considère qu'environ la moitié était plus du champ de la médecine de ville. Les médecins généralistes travaillent énormément au quotidien et je ne remettrai jamais ça en cause. Pour autant, on parle beaucoup des maisons de santé. Les maisons de santé, c'est à peu près 10% des médecins. Tous les autres travaillent de façon isolée, seuls ou dans des cabinets de 2 ou 3. Et ne se concertent pas à l'échelle d'un bassin de vie. Moi, ce que je leur propose, c'est déjà d'essayer de voir à l'échelle d'un bassin de vie, donc ça peut être un demi-arrondissement à Paris, une intercommunalité en milieu rural, pour s'organiser entre eux, voir s'il n'y a pas des marges de manœuvre, pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait un qui soit toujours un peu plus référent sur ses soins non programmés.
Alors, de se coordonner entre eux.
Exactement, de se coordonner.
Le mot-clé, c'est la coordination,
Thomas Lignier. De coordonner aussi les plannings, parce que j'ai la première audition que j'ai voulu faire dans mon travail, c'était celle des usagers. Et on voit bien que pendant les fêtes, parfois sur un même bassin de vie...
C'est quoi les usagers en l'occurrence?
Les patients, pardon.
Ah, les patients.
Les patients, les Français. On voit bien que par exemple, pendant les fêtes de Noël de 2017, il y a des endroits où il n'y avait plus de professionnels de santé accessibles parce qu'ils étaient tous partis en vacances. Et ils ont le droit de partir en vacances seulement. On peut peut-être aussi se dire qu'ils...
S'organiser différemment pour qu'il y en ait toujours un de disponible.
Pour qu'il y en ait toujours un qui soit dans les
barrages. Mais est-ce que ce n'est pas, Thomas Meignier, une façon, pardon de l'expression un peu triviale, mais une façon de se passer la patate chaude, c'est-à-dire que personne n'assume la responsabilité. Ah non, bah là c'est toi, bah non, là c'est toi, et finalement il n'y a pas de professionnel de santé pour les usagers patients.
Je crois qu'il
français.
Faut justement s'organiser, se coordonner. Ça doit rester, et le médecin traitant doit rester la pierre angulaire du système. Je pense qu'on peut trouver des marges de manœuvre en s'organisant, sans leur demander de travailler plus, mais juste en s'organisant, ce qui permettrait peut-être de voir quelques malades de plus, de passer aussi par les autres professionnels de santé. Quand vous tordez la cheville dans la rue, un kiné pourrait très bien prendre en charge votre cheville aussi bien, au moins, qu'un médecin.
S'il est disponible, encore une fois, et s'il est à quelques mètres de là où on est, parce que quand on se tord la cheville, on a du mal à marcher. Mais Thomas Meignier, juste coordination, implication des généralistes, il est un troisième, on n'a pas le temps évidemment de détailler les 19 préconisations, mais il est un troisième point qui est très très important, c'est votre souhait de supprimer les numéros d'urgence 112, 116, 117 et de faire du 15 le seul numéro d'appel. Alors ça, un certain nombre de critiques ou de malentendus, enfin pas de malentendus, mais effectivement de réserves ont été émises à l'encontre de cette proposition, se disant que là encore, si on a un seul numéro d'appel, comment faire le tri alors même que quand il y en a déjà plusieurs, on n'arrive pas forcément à bien distinguer que ce soit quelqu'un qui étouffe, encore une fois, ou que ce soit un incendie, alors que là c'est les pompiers.
Alors justement, là le débat actuellement, il est à un numéro unique pour tout, et donc on mélange la police, les pompiers, la santé, tout, ou potentiellement deux numéros avec un de l'urgence type l'incendie, le cambriolage...
Et un autre type santé.
Et un autre type santé. Moi j'ai pris position pour ce côté-là parce que je considère qu'il est complètement différent d'appeler pour un problème de santé qu'on considère urgent. On n'est pas en capacité de savoir si ça l'est ou pas, mais on le considère. Et donc, c'est notre urgence à nous. Et donc, l'État doit être capable de donner une réponse de santé aux Français. C'est très différent d'appeler pour un problème de santé et pour un problème d'incendie, de cambriolage ou que sais-je. Donc, la première chose, c'est déjà de ne pas avoir à faire le tri entre ces différents types d'appels et de dire on a un numéro santé. Derrière, c'est aux professionnels de s'organiser. Ils le font déjà au quotidien. Vous savez, le 15 a dévié progressivement de son essence même de l'urgence pour répondre d'ores et déjà à un certain nombre de problématiques du quotidien, de la pharmacie de garde.
Faut revenir à l'urgence.
Il faut avoir un numéro qui... comprennent l'ensemble, où il y ait un urgentiste et un généraliste au téléphone et que, en fonction de la demande, ce soit orienté vers le bon professionnel. Alors, les généralistes sont globalement d'accord avec ça, seulement ils voudraient un numéro à part pour eux. Je considère que aujourd'hui le débat il est plutôt à un seul numéro pour tout ou éventuellement à deux. On n'est pas sur un 3 ou un 4e. L'idée, c'est aujourd'hui de rendre le système plus simple, plus lisible, parce qu'aujourd'hui, entre tous les numéros d'urgence, on s'y perd. Et quand on a besoin d'un de ces numéros, on ne doit pas avoir à réfléchir auquel appeler. Ça doit être instinctif. Et donc, un numéro santé que tout le monde pourrait connaître, qui pourrait être connu des enfants, me semble être une bonne solution.
Qu'est-ce qui va devenir de ce rapport, Thomas Meynier?
Écoutez, je l'ai
la même chose que celui de Jean-Louis Borloo.
Écoutez, je souhaite que non. Je vais continuer à le défendre, à essayer de l'expliquer, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'incompréhension quand je l'ai présenté, parce qu'il faut pas s'arrêter à quelques tweets. Il faut du temps. C'était le premier rapport remis à la ministre parmi toutes les missions qu'elle avait lancées. Elle attend de recevoir toutes les conclusions de chacune de ces missions pour ensuite voir ce qu'elle va prendre, ce qu'elle va laisser de côté pour articuler cette transformation du système de santé dont vraiment on a besoin.
8h31 sur France Culture. Restez avec nous, Thomas Meynier, ça va être l'heure tout de suite de la revue de la semaine.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
La revue de la semaine avec vous, Mélanie Chalandon, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
On en parle depuis des mois, le fameux Règlement Général pour la Protection des Données, RGPD, est entré en vigueur hier. Les internautes européens devraient être désormais parmi les mieux protégés du monde.
Et c'est en tout cas la promesse du RGPD. Et comme le rappelle Amaël Guiton dans Libération, ce texte est un peu la revanche d'une Europe désormais à l'initiative en matière de protection des données privées. Il a fallu 4 ans, rappelle-t-elle, et de nombreuses tractations avant que les 28 parviennent à se mettre d'accord. Le RGPD, c'est une défense collective de nos données, analyse de son côté le chercheur Antonio Casilli, toujours dans Libération. Une défense qui a eu l'intelligence de s'adapter à l'omniprésence des plateformes numériques dans notre quotidien. Il fallait bien partir, du constat, je cite, que nos données ne sont plus chez nous, mais disséminées. Un règlement qui devrait donc permettre un bon nettoyage de printemps pour tous ceux qui avaient omis de respecter certaines règles. Avance de son côté le journal en ligne Next Impact, spécialiste des questions numériques, et qui propose un décryptage en 10 grandes questions du RGPD. Alors quid des géants comme Facebook, jusqu'ici très peu concernés par le respect de la vie privée? Dans un article sur le site de Conversation, la chercheuse Nathalie Devilliers s'est indignée mercredi de l'incapacité, je cite, de Mark Zuckerberg à clarifier sa mise en œuvre du règlement sur les demandes d'effacement par exemple, ou même sur l'accès à leurs données par ceux qui n'ont pas de compte Facebook. Eh bien, aucune réponse précise du dirigeant. C'était mercredi à Bruxelles, devant les députés européens. Zuckerberg ne semble pas avoir convaincu.
Emmanuel Macron était lui en visite à Moscou cette semaine, où il a tenté de convaincre Poutine du destin européen de la Russie.
Et on aurait presque oublié, souligne Isabelle Lasserre dans Le Figaro, que la France fait partie de ceux qui ont placé la Russie sous sanctions économiques après l'annexion de la Crimée en 2014. Les deux dirigeants ont donc affiché leur convergence diplomatique sur l'Iran et la Syrie notamment. La Syrie, où Poutine a pourtant multiplié les promesses non tenues depuis le début du conflit vis-à-vis des Occidentaux, écrit Isabelle Lasserre. Alors si on veut prendre le temps de se pencher sur les ressorts de la géopolitique russe et de ses relations pour le moins tendues avec l'Ouest, on lira le dernier numéro de Manière de voir, le supplément du monde diplomatique. Ça s'appelle La nouvelle guerre froide. 30 ans après la chute du mur, comment en sommes-nous arrivés là? Le Diplo rappelle que déjà en 92, un document officiel de l'armée américaine, le rapport Wolfowitz, alertait sur le regain de nationalisme en Russie. Né d'un sentiment de trahison, ce revanchisme, s'étonne Hélène Richard dans le préambule, n'a pas été pris en considération. Aujourd'hui, le Proche-Orient, peut-on lire dans l'une des contributions, est le seul terrain où la politique étrangère russe est fructueuse, entre guillemets, en tout cas selon les intérêts russes. Ça s'appelle « Que cherche la Russie en Syrie ?» et donc c'est à lire dans « Manière de voir ».
Et puis on a pu lire cette semaine de nombreux hommages à Philip Roth, l'écrivain américain, géant de la littérature américaine, a-t-on pu lire partout en France, disparu jeudi. On y est revenu aussi sur France Culture hier matin dans l'émission de Guillaume Erner avec ses deux invités, Marc Weitzman et l'éditeur Olivier Cohen. Il parlait d'un article fort intéressant paru sur le site du New Yorker par l'écrivaine américaine Nicole Cross. Et bien, curieuse comme vous êtes, Mélanie, vous êtes allée lire par vous-même cet article.
Donc c'est à lire en anglais, c'est en accès libre sur le New Yorker. C'est un texte, c'est un témoignage très personnel. Nicole Cross, qui est donc publiée en France par les éditions de l'Olivier, on peut lire notamment Forêt obscure ou La Grande Maison en français. Et ce texte est donc une sorte de confidence du rapport très intime que Nicole Cross entretien avec l'œuvre de Philippe Roth. Elle raconte comment elle s'est littéralement découverte elle-même dans les livres de Roth, comment, année après année, les batailles de l'écrivain se sont faites siennes. Le désir de saisir sa propre liberté, de renverser ses limites et ses contraintes sans abandonner ce que nous avons à honorer ou à aimer. J'en savais déjà beaucoup grâce à lui, dit-elle, sur ce que c'est de lutter et de persévérer. Mais j'ai appris non pas à venir à bout de cette lutte, mais la garder vivante, non pas supporter l'inconfort et la tension de l'incertitude, mais construire ma vie au cœur de cette lutte. En 2007, lors de leur première rencontre, ils avaient parlé, confie-t-elle, de cette éprouvante lutte, je cite, qu'est l'écriture, et elle lui avait demandé si cela deviendrait plus facile avec le temps. La réponse avait été claire, non, ça n'ira pas mieux, it's not going to get better.
C'était la revue de la semaine de Mélanie Chalandon. On retrouve notre invité Thomas Meynier, médecin urgentiste de formation et à ce titre soucieux des questions de santé, auteur d'un rapport remis mardi sur la refonte des urgences à la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, également député de Charente, La République en marche depuis 2017, Thomas Meynier. À ce titre, vous êtes un marcheur de la première heure. Marcheur de la première heure, au bout d'un an, on n'est pas épuisé?
Écoutez, non, on est au contraire un peu plus entraîné, enthousiaste après cette première année au travail. On avait un mandat clair donné par les Français.
Lequel?
Celui de transformer le pays selon le programme qu'on avait expliqué pendant des mois et des mois. C'était ma première campagne, c'est mon premier engagement politique. C'est avec En Marche que j'ai fait mes premiers marchés.
Vous êtes tout jeune, hein, vous avez une toute petite trentaine d'années.
J'ai 32 ans, oui. Mais aujourd'hui, écoutez, on avance, on fait ce qu'on a dit qu'on ferait.
Avez l'impression que le pays est en train d'être transformé?
On explique, en tout cas on fait les réformes, certaines peuvent peut-être prendre du temps pour qu'on en sente les effets, mais elles sont pour autant essentielles. On a avancé sur le travail, on a fait cette réforme essentielle de la confiance dans la vie publique, il y a eu cette loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, on a par le budget pris un certain nombre de mesures pour améliorer aussi le quotidien des Français.
Vous comprenez malgré tout qu'un certain nombre de Français dont vous parlez soient dans la rue, soient en grève depuis plusieurs mois, c'est colère. Aujourd'hui même doit se tenir une marée, ou plusieurs même marées populaires. On parlait tout à l'heure du personnel hospitalier, de la fonction publique. C'est colère, Français, ce sentiment de n'être pas écouté. En tous les cas, vous êtes aussi d'ailleurs membre de la commission des affaires sociales, hein, Thomas Meynier. On entend beaucoup le fait qu'il n'y ait pas assez de social dans cette année passée avec la présidence Macron. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je comprends tout à fait que des gens puissent se lever, ne pas être en accord avec nous, et il faut discuter avec eux, et c'est sain, et je conçois tout à fait qu'ils manifestent. Pour autant, et le président le disait hier soir, il ne faut pas être la girouette de l'opinion. Moi, vous savez, en circonscription, ce que je vois très souvent, c'est des gens qui me disent « ne lâchez pas, ne lâchez rien ». Ils nous le disent tellement souvent qu'on finit par se demander ce qu'il faut plus lâcher, d'ailleurs. Mais parce qu'il y a une volonté importante de réforme. Des mesures sociales, peut-être qu'on n'en a pas assez fait la pédagogie, peut-être, certainement, il faut toujours faire plus, toujours faire mieux. Écoutez, moi, quand on dédouble les classes de CPCE1 en repéré plus, quand on supprime la taxe d'habitation, quand on augmente les aides aux familles monoparentales, quand on augmente le minimum vieillesse de façon aussi importante, inédite depuis des années et des années, j'ai quand même la sensation
qu'on peut en faire plus, mais que vous êtes relativement satisfait.
Qu'on a de véritables mesures aussi de justice sociale sur lesquelles il faudra continuer de toute façon à travailler.
Thomas Meynier, vous êtes également délégué national à la jeunesse au bureau exécutif de La République
exact.
En Marche. Vous êtes jeune vous-même, vous êtes sorti donc de vos études de médecine il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'elles sont très longues les études de médecine, vous êtes jeune. Est-ce que vous trouvez normal que la police arrête des lycéens et les mette en garde à vue sans avertir les parents? Je fais bien entendu référence à ce qui s'est passé au lycée Arago à Paris cette semaine.
J'ai pas suivi cette actualité-là, étant très pris justement par le rapport dont on parlait tout à l'heure. S'il y a eu, comment dire, des des délits commis, il est normal que les forces de l'ordre interviennent. Pour autant, effectivement, s'il s'agit de mineurs, il est normal que les parents soient prévenus.
Je ne veux pas vous prendre en défaut si vous n'avez pas suivi cette actualité, donc vous irez la regarder de très près, cela vaut la peine. Ce que vous nous exprimez là, Thomas Meynier, c'est aussi le fait que justement vous êtes de fait très pris par votre travail, à la fois de député et de rapporteur. Rapport donc sur la refonte des urgences, et c'est un secteur, un domaine, une question qui est fondamentale. Et que vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément la disponibilité pour être à l'écoute de ce qui se passe nécessairement dans le pays tous les jours. Vous n'avez pas le temps ni la disponibilité.
Vous savez, globalement, on reste quand même très à l'écoute. Je passe toujours du temps en circonscription. J'y ai passé ma journée hier, une partie avant-hier.
C'est pas député de Charente, hein.
De Charente, tout à fait, autour d'Angoulême. C'est pas non plus toutes les semaines qu'on présente un rapport qui est le fruit de plusieurs mois de travail, qu'on doit en faire la pédagogie autant que possible. Il faut pas faire de cette semaine une généralité.
Donc tac. Thomas Meynier, justement, ça fait un an que vous êtes député. Vous êtes à la fois de ceux qu'on a qualifiés de novices et un représentant parfait de la société civile sur laquelle on a beaucoup glosé, c'est-à-dire manque d'expérience, mais en même temps, renouvellement de la façon de faire de la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'un l'a emporté sur l'autre, le manque d'expérience ou ce renouvellement ?
Écoutez, on nous a fait beaucoup de... On nous a qualifié de beaucoup de mots, d'excès probablement, de godillots et compagnie. Je crois qu'au bout d'un an, on voit que l'Assemblée nationale fonctionne toujours, travaille. D'ailleurs, l'avis de certains observateurs... beaucoup, même peut-être trop, vous le dites, donc en tout cas plus qu'avant, c'est une certitude. On est attaché à engager les réformes et à continuer, parce que on a ce mandat très clair qui est sorti des urnes l'année dernière.
Est-ce que vous avez suffisamment de débats à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous avez...
On passe notre temps à débattre. On va encore y passer tout notre week-end à débattre. Il semblerait que sur le prochain texte sur le logement, il en soit de même et qu'on débatte tout le week-end. Sur la loi asile-immigration, il n'y a pas si longtemps que ça, on y a passé plus d'une semaine et les jours et les nuits entières. On débat, on enrichit les textes, on discute. Alors, il y a certains points sur lesquels on tombe d'accord avec l'opposition, d'autres... Évidemment, non.
Vous avez l'impression de servir à quelque chose, donc de faire quelque chose, comme Amélie, à l'Assemblée nationale.
Mais bien sûr, enfin, je crois que la question ne se pose même pas.
Elle doit nécessairement se poser au quotidien quand on est député de l'Assemblée nationale, mais on a élu de la République.
C'est un travail de chaque instant, une mission de chaque instant. Quand je travaille pendant des mois, que je parcours la France, j'ai fait 7 déplacements, que je fais plus de 50 auditions, que je rencontre plus de 250 personnes en quelques mois pour travailler sur ce rapport, j'ai vraiment la sensation d'être utile, en tout cas de travailler pour l'intérêt général, de faire des propositions. Alors on est d'accord avec certaines, moins avec d'autres, et c'est normal et ça doit amener le débat, c'est aussi fait pour ça. Mais en tout cas, oui, on travaille au quotidien pour essayer d'améliorer les choses dans notre pays.
Si je vous pose cette question, Thomas Meynier, c'est que le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, Richard Ferrand, donc de votre groupe, a dit que l'objectif de 2 projets de loi présentés en Conseil des ministres ce mercredi qui visaient la réforme des institutions, l'objectif était de moderniser et de redonner de l'efficacité au Parlement, comme si le Parlement, aujourd'hui par rapport à l'exécutif, n'était plus efficace. Donc comme si vous ne serviez plus à grand chose, Thomas Meynier.
Alors,
pas vous personnellement, vous avez compris,
mais
vous députés.
Non, je suis assez d'accord avec Richard Ferrand tout de même. On perd énormément de temps dans un certain nombre de formalités à l'Assemblée nationale sur lesquelles on pourrait gagner en efficacité. Quand vous savez par exemple qu'avant chaque début de débat sur un texte de loi, vous avez au moins 1h30 de ce qu'on appelle la discussion générale, où chaque député vient parler 5 minutes l'un après l'autre. Finalement, on peut se dire qu'il pourrait y avoir un temps donné par groupe et pas cette litanie de discours que finalement plus personne n'écoute. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, l'hémicycle se vide parce que c'est pas ça qui fait véritablement avancer le débat. Des procédures entre l'examen en commission puis l'examen en séance, il y a véritablement des marges de manœuvre pour, là encore, comme pour le soin, s'organiser mieux pour être plus efficace.
Allez, restez avec nous, Thomas Meynier. Il est 8h45, vous écoutez France Culture. Nous entrons dans le dernier quart d'heure de ces matins du samedi, le quart d'heure culturel. L'idée culture, tout de suite. L'idée culture, figurez-vous, c'est chaque samedi une personnalité qui vient du monde des idées et qui nous donne son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marquée dans sa vie. Mélanie Chalandon est chargée de cette rubrique. Qui avez-vous rencontré cette semaine, Mélanie ?
Eh bien, ce matin, c'est l'historien Benjamin Stora. Benjamin Stora, grand spécialiste de la guerre d'Algérie, de l'histoire du Maghreb, de l'immigration. Il vient de publier 68 et après aux éditions Stock. C'est un livre qui s'interroge sur le destin de la gauche et du PS en particulier, des années révolutionnaires jusqu'à aujourd'hui. Et le destin, justement, eh bien, il en est question dans cette œuvre qu'il a choisie. On l'écoute.
Moi, j'ai choisi de parler ce matin d'un film qui s'appelle « À bout de souffle », qui est un film très connu. Ce film qui m'a profondément marqué, que j'ai découvert en fait 10 ans après sa diffusion, sa sortie en salle, puisque j'ai découvert en 1970. En 1960, je pouvais pas le voir, puisque j'étais en Algérie, c'était la guerre d'Algérie, donc je ne pouvais pas voir À bout de souffle, j'étais petit, j'avais 10 ans. Mais 10 ans plus tard, j'ai pu le voir à Nanterre, à l'université de Nanterre, où il y avait un ciné-club. Et c'est là que j'ai découvert À bout de souffle, qui m'a impressionné, parce que il y avait l'insolence, tout simplement, des deux acteurs, Belmondo et Gene Seberg, évidemment. Il y avait une désinvolture, un parfum de l'après-mai 68, en fait, fondamentalement, d'un bout de souffle, qui défiait les codes classiques de la narration, la déconstruction complète du fonctionnement cinématographique traditionnel. Et ça m'avait énormément surpris et beaucoup, beaucoup plu, quoi. Et puis surtout, c'était le personnage de Belmondo, hein, qui était ce personnage très insolent, qui défiait à la fois la société, parce que c'est un petit voyou en fait qui monte à Paris, qui vole une voiture, etc., mais qui en même temps parlait directement aux spectateurs, ce qui était absolument extraordinaire pour l'époque. Et donc ça m'avait beaucoup marqué, ce film en noir et blanc. Puis j'ai revu À bout de souffle une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était à la télévision, 20 ans après.
Buenas noches, mi amor. S'il croit qu'il va me doubler, celui-là, que ça frégate à la con. Patricia, Patricia. Alors, je vais chercher l'argent. Je demande à Patricia oui ou non. Et après... Buenas noches, mi amor. Milano, Genova, Rome. C'est joli la campagne.
Et là, j'ai regardé différemment À bout de souffle parce que, à cette époque-là, en 1990, j'étais en train d'écrire un livre sur la mémoire de la guerre d'Algérie, La gangrène et l'oubli. Et j'ai vu ce film à ce moment-là. Et en fait, j'ai regardé cette fois-ci À bout de souffle à travers les yeux d'un historien qui regardait un personnage de 1960, comme un jeune de 1960 en pleine guerre d'Algérie ou fin de guerre d'Algérie, et qui, quelque part, était confronté à un destin un petit peu d'engrenage, un destin implacable, et qui, doucement et tranquillement, mais sûrement, marche vers sa mort. Et ça m'avait aussi impressionné, parce que cette fois-ci, le regard que je portais sur À bout de souffle, c'était à travers, quelque part, le drame que j'avais moi-même vécu et qui me renvoyait à une autre histoire, qui était plus simplement l'insolence, le défi, la désinvolture, mais qui était aussi, quelque part, le caractère d'engrenage terrible et dramatique d'une histoire qui se termine mal, en fait. Parce que l'histoire, on le sait, se termine mal, puisque Belmondo va être abattu, rue Campagne Première d'ailleurs, dans le 14e, je crois. Et puis une troisième fois, cette fois-ci encore quelques années plus tard, et cette fois-ci, la seule chose que j'ai retenue du film, en le revoyant pour la dernière fois, pourrait-on dire, c'était le duo d'acteurs. Voilà, Belmondo, Gene Seberg, un duo d'acteurs très jeunes et qui démodait pratiquement tout ce qu'il regardait, tout ce qu'il voyait. Et c'est ça qui m'a frappé fondamentalement. C'était le personnage de Belmondo et le personnage de Gene Seberg qui était d'une terrible modernité. Enfin, moi, je peux le regarder aussi comme toute une sorte de panorama, de symptômes d'une génération dans l'avant 68 cette fois-ci, qui était à la recherche de la sortie d'un monde très corseté, en fait, fondamentalement. Et c'est un film très annonciateur, hein, dans ce qu'on va connaître quelques années seulement après.
Tu as lu Les Pampres Sauvages ?
Je t'ai dit que non. Enlève ton chandail.
Écoute, la dernière phrase est très beau. Between grief and nothing, I will take grief. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Et toi, tu choisirais quoi?
Monte tes doigts de pied. C'est très important, les doigts de pied chez une femme, rigole pas.
Tu choisirais quoi?
Le chagrin, c'est idiot. Je choisis le néant. C'est pas mieux. Et le chagrin, c'est un compromis.
On ose à peine parler sur cette scène d'À bout de souffle. Et puis, bien, on peut bien sûr voir ou revoir à bout de souffle, comme Benjamin Stora, le voir trois fois et avoir à chaque fois une lecture différente d'À bout de souffle. Et puis, on peut écouter Benjamin Stora, qui sera l'invité de la Grande Table ce mardi, le mardi prochain, Grande Table présentée par Raphaël Bourgois. Et c'est à 12h55.
Thomas Meynier, vous écoutiez cette idée culture de Benjamin Stora sur À bout de souffle attentivement. Que représente, alors pas forcément ce film, je ne sais même pas si vous l'avez vu, mais Jean-Luc Godard, Jean-Paul Belmondo, pour le jeune trentenaire que vous êtes, est-ce que ça représente quelque chose, ces gens du cinéma?
Ah, ce sont nos figures, nos monstres sacrés du cinéma français, qui ont bercé, je pense notamment Jean-Paul Belmondo. J'ai vu un nombre très important de ses films, c'était toujours... un plaisir, et puis c'est ce qui probablement a donné à des générations et des générations le goût du cinéma. Donc c'est toujours agréable, et je suis particulièrement fier qu'on ait à Angoulême le festival du film francophone, où justement année après année on met un peu plus le cinéma français et francophone, mais en particulier français, en lumière.
Vous êtes donc vous citez Angoulême. À Angoulême, il y a aussi le Festival international de bande dessinée. Vous êtes un lecteur de bande dessinée, Thomas Meynier?
Depuis ma plus tendre enfance, je suis un bédéphile complètement raccord avec mon territoire. J'ai des centaines de bandes dessinées chez moi, et je pense qu'effectivement, ça fait partie de notre patrimoine. Ouais.
Alors depuis qu'il est enfant, notre chroniqueur culinaire, confrère de Libération, Jackie Durand, est lui un mangeur. Vétéré, à défaut d'être un lecteur de bande dessinée. Il est 8h53, c'est l'heure de Jackie Durand et de ses mitonnages. Jackie Durand, qui est donc venu ce matin avec un fromage qui embaume le studio. Il faut dire que le 15 mai dernier, Thomas Meynier, dans les colonnes de Libération, quelques chefs étoilés, Olivier Rollinger, Anne-Sophie Pic, Michel et Sébastien Brasse, Pierre Gagnère, donc parmi les plus grands, ont signé une tribune pour prendre la défense du camembert. Le camembert au lait cru.
Oui, c'est camembert qu'on assassine, et ils vont encore plus loin, ces signataires, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, en ligne notamment. Ils disent que le plus populaire des fromages tricolores, le Calandos, né dans les limbes de la Révolution française, est en train en fait de basculer dans la pasteurisation. Vous entendez ça, la pasteurisation, c'est-à-dire on chauffe le lait pour le débarrasser d'un certain nombre de ses bactéries, mais ça plaît pas aux défenseurs du camembert au lait cru.
Blasphème pour le camembert.
N'est-ce pas? Eux, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament un camembert au lait cru pour tous. Ils réclament qu'on aide les producteurs laitiers en visant la qualité dans le respect de la tradition. Ils disent liberté, égalité, camembert. Parce qu'en fait, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est que d'ici 2021, il n'y aura plus qu'un seul et unique camembert de Normandie, appellation d'origine protégée, qui sera élaboré avec du lait pasteurisé. Et c'est là que le bât blesse. Donc, notre camembert, eh bien, effectivement, on a envie de le défendre. Et on a aussi envie de le défendre en cuisine, avec un plat qu'on n'attend pas forcément avec le camembert d'ailleurs. Vous connaissez le Welsh?
Le Welsh? Non.
Eh bien, moi, je viens de goûter, ou plutôt nous venons de goûter, mon fils et moi, notre premier Welsh à emporter en provenance des bons pâturages. C'est la plus ancienne fromagerie de Lille. Et en fait, on va vous raconter un peu l'histoire du Welsh, et après, on vous donnera une recette de Welsh au camembert.
Vous me racontez l'histoire, mais vous me dites ce que c'est, le Welsh?
Ah.
C'est un plat cuisiné au camembert, donc.
Non, à l'origine, c'est un plat qui est cuisiné avec du cheddar. Mais nous, on va le détourner avec du camembert. Mais avant, il faut revenir sur l'histoire de ce Welsh. Pour nous, c'est le Graal des nuiteux, le Welsh. C'est pas sorcier comme recette. Effectivement, c'est du fromage, de la bière, du jambon, un toast. Et franchement, ça vous rend invulnérable jusqu'au bout de la nuit. Nous, le Welsh, c'est notre étendard. Et quand on a envie de Welsh, on met cap sur le nord, l'île par exemple, ou encore le Pas-de-Calais, où le Welsh Rarebit, spécialité british, aurait débarqué durant la Première Guerre mondiale dans la gamelle des soldats britanniques. Alors cette histoire, elle nous est contée par Pierre-Brice Lebrun, dans son petit traité du camembert. Il parle du camembert, mais aussi du Welsh. C'est aux éditions du Sureau. Donc le Welsh vient du Pays de Galles, où on l'appelle aussi, excusez-moi mon accent n'est pas génial, Cowadi Pobi. On traduit ça par fromage cuit. En fait, le nom du Welsh Rarebit était à l'origine une façon de désigner ce plat comme un substitut de basse qualité, un ersatz, à la viande de lapin. Donc le Welsh est une espèce de croque gallois. Jadis, on le faisait avec du Chester, mais c'est un fromage qui est rare et cher. On l'a remplacé par du cheddar. On a pris une tranche de pain grillée, du jambon, de la moutarde, de la bière brune. Et on a saisonné ça avec de la sauce Worcester. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un Welsh au camembert? On remplace le cheddar par quoi?
Par du camembert.
Par du camembert. Et c'est
on obtient un croque-monsieur et de la bière.
Un croque-monsieur, mais comment vous allez?
Du jambon, un toast, du fromage.
Mais ça, c'est dans votre estomac, Caroline, parce que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Vous prenez, vous savez, un petit ramequin qui va au four ou un couaclon, comme on dit. Vous mettez la bière, par exemple 25 centilitres. Vous mettez...
Maximum, hein.
Maximum. Le reste, on le boira en mangeant, évidemment. Vous mettez du camembert écrouté, carrément. Vous mettez le camembert écrouté en morceaux. Vous portez à ébullition, vous mélangez bien. Il faut que ça soit homogène. Il faut que ça soit un petit peu, vous savez, comme une fondue. Mais là, c'est pas savoyarde, c'est une fondue normande, on va dire. Et vous immergez dans ce bonheur votre tranche de pain grillée, tartinée de moutarde et de jambon. Vous salez légèrement parce que le fromage, il est salé. Le jambon aussi. Ou poivré, et vous faites gratiner ça au four à 210 degrés. Attention, si vous avez un appétit de mineur gallois, vous pouvez ajouter des œufs au plat dessus. Bon, une petite salade, par exemple, de cresson, c'est pas mal pour faire passer tout ça. Et puis, évidemment, ça se déguste avec une bonne bière.
Et déconseillé à ceux qui pensent à leur été. Merci beaucoup, Jacky Durand, et à la semaine prochaine. Liberté, égalité, camembert, Thomas Meynier. J'ai l'impression que votre appétit n'a pas été tout à fait ouvert.
Le camembert le samedi matin avec un peu de bière et des œufs sur le plat, c'est un petit peu dur.
Très peu pour vous. D'accord, on a bien compris. D'ailleurs, on ne sait jamais avec Jacky si c'est du lard ou du cochon, pour reprendre une expression fameuse. Il est 8h58, nous arrivons à la fin de ces matins du samedi et c'est l'heure du choix musical de l'invité. C'est vous, Thomas Meynier, aujourd'hui qui avez donc choisi la musique. Alors, on pensait quelque chose de très actuel vu votre âge. Et pas du tout, vous nous avez replongé dans les années 60. Les Beatles, pourquoi ce choix?
Les Beatles, 8 Days a Week, parce qu'on peut être jeune et j'espère dynamique, et puis aimer, comme on le disait tout à l'heure, les films de Belmondo, la musique des années 60-70, et donc les Beatles, parce que je suis un grand fan des Beatles, qu'à l'époque de la fac j'avais une coupe de cheveux à la Beatles, que même mes amis de fac me surnommaient le Beatles, et que ça continue, et puis 8 Days a Week, parce que c'est une chanson sympa dès le matin. Qui en plus fait un petit clin d'œil parce qu'on est au travail 8 jours par semaine.
Thomas Meynier, que le projet de transformation pour la France, ça n'est pas de travailler 8 jours par semaine.
Non.
Merci beaucoup quand même d'être venu ce matin à France Culture. Il est 8h59. Merci à toute l'équipe. Mélanie Chalandon, aidée de Juliette Mauban-Nivol. Cette émission a été réalisée, ça y est, je fatigue un peu, par Doria Zénine. Jean-Guilain Meige était à la technique aujourd'hui. Je vous laisse dans quelques secondes avec le journal de Camille Magnard, suivi de répliques par Alain Finkielkraut. Bon week-end à tous.